Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Cette année, rien que pour le diocèse de Toulouse, 1045 jeunes et adultes ont été confirmés à la Pentecôte. La dernière enquête réalisée par la Conférence des évêques de France précise que ce chiffre a doublé dans la plupart des diocèses de notre région. Qu'est-ce qui pousse tant d'adultes à demander aujourd'hui la confirmation et que vont-ils faire de ce sacrement reçu? Élément de réponse aujourd'hui avec nos invités. Confirmer et après, c'est évidemment la question que nous nous posons aujourd'hui après la célébration de milliers de confirmations dans nos diocèses, une suite à mettre en parallèle avec le parcours de préparation que chaque confirmant a suivi. Deux d'entre eux sont les invités de Radio Présence. Elles ont préparé leur confirmation avec la paroisse étudiante de Toulouse. La première est en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour Chiara Gatti.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes toulousaine, mais c'est à Paris que vous faites vos études de management statistique à la Sorbonne et c'est donc pour ça que vous avez été confirmée à Toulouse pour retrouver votre famille. Et puis, on le verra, vous avez suivi une partie de votre préparation avec la paroisse étudiante de Toulouse. La seconde confirmée maintenant, c'est Tiphaine de la Rupelle. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous terminez votre deuxième année de bachelor à TBS Éducation. Vous avez toutes les deux 21 ans. Et enfin, un de vos catéchistes est aussi présent. C'est Thibaut Buguet-Chargère. Bonjour Thibaut.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes âgé de 26 ans. Vous êtes ingénieur aéronautique chez Airbus. Merci à tous trois d'être présents aujourd'hui. Alors, c'était le 8 juin. Chiara et Tiphaine, vous avez été confirmés. Vous faisiez partie de ces 1045 personnes qui ont reçu le sacrement de confirmation au parc des expositions qu'on appelle le Mythe à Toulouse. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment? Je vous donne d'abord la parole, Chiara.
Merci Isabelle. Alors moi, j'ai particulièrement apprécié cette journée parce que je trouvais ça génial en fait qu'on puisse avoir toute une journée dédiée à la Pentecôte et à l'Esprit-Saint pour vraiment nous permettre de comprendre la symbolique de ce jour-là, adapté pour tous les âges, tous les goûts. Et même l'effusion d'animation m'a rappelé en fait l'ambiance des JMJ de Lisbonne en 2023. Et après, la messe, c'était un grand et beau moment de réunion, une belle effusion de l'Esprit-Saint qui réunissait les familles et les jeunes. Et pour ma part, je n'avais jamais vu encore autant de prêtres et d'hommes d'église réunis en une seule et même messe.
Et oui, ils étaient 150, oui.
Oui, ce qui a vraiment ajouté à la beauté de la cérémonie et qui témoigne bien de la foi et de l'envie de rejoindre l'église aujourd'hui de la communauté chrétienne et des jeunes de notre génération.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait vraiment des personnes de tous âges et ça montre bien la diversité de l'église. Pour vous, Tiphaine, quel souvenir gardez-vous de cette confirmation, de votre confirmation?
Ben, j'allais y venir, d'une part, la diversité de voir des personnes de tous horizons et de tous âges, ça faisait du bien, notamment aussi auprès des confirmants, parce qu'il y avait des personnes qui étaient jeunes adultes comme moi, mais il y avait aussi des personnes d'un âge un petit peu plus avancé. Ça a donné lieu à des rencontres et des discussions assez marrantes et assez enrichissantes. Et d'autre part, je pense que c'est aussi important de voir qu'en fait, peu importe ce qu'on dit, l'Église aujourd'hui ne s'essouffle pas. Et je trouvais que cette journée avec 10 000 personnes et la célébration par la suite, ça a été un beau témoignage du fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une église qui est forte et qui est vivante et enracinée. Donc, ça a permis de nous rassurer aussi là-dessus.
Oui. Alors, vous avez donc été baptisée. Et alors, oui, ce que je voulais dire quand vous parliez, quand vous disiez, Tiphaine, qu'il y avait des gens de tous âges, il y a même un papa qui a été confirmé en même temps que son fils. Et son fils aîné qui avait été confirmé avant était son parrain de confirmation. Oh, ouais. C'est quand même amusant. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour recevoir ce sacrement de confirmation. Vous avez été baptisées toutes les deux, Chiara et Tiphaine, quand vous étiez bébé, enfin voilà, ou très jeune enfant. Vous fait votre première communion, mais vous n'aviez pas été confirmée à l'âge du collège ou du lycée. Pourquoi, Tiphaine?
Quand j'étais petite, j'ai eu une foi qui était assez forte, mais c'est vrai qu'à l'entrée de l'adolescence, j'ai vécu des épreuves assez difficiles. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une sorte de rupture avec la religion parce que j'avais un sentiment assez violent d'abandon et d'injustice profonde. Et je me suis dit que si Dieu me laissait dans mon malheur, c'est que soit il ne m'aimait pas, soit il n'existait pas. Je pense que c'est un doute qu'on traverse un peu tous dans notre vie de chrétien. Mais moi, c'est un doute qui a duré assez longtemps, bien 5-6 ans, jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Et il y a 2 ans, en fait, j'ai vécu à nouveau une épreuve, sauf que cette fois, j'ai décidé de changer de regard. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer d'aller chercher autour de moi des petits éléments qui me permettent de m'accrocher, des éléments de vie que je trouve beaux, que ce soit le sourire d'un passant ou une amie qui est là sans se faire remarquer, mais qui est là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'amour de Dieu. mais que c'était pas un amour qui était évident ou qui s'imposait à moi, que c'était à moi de le chercher et que c'était aussi à moi de le semer autour de moi. Et à ce moment-là, du coup, je me suis reposé la question de la confirmation et de ma foi de manière générale, quoi.
Mmh. Quelle a été la réaction de votre famille quand vous avez dit « bon ben voilà, maintenant, cette année, je ne ferai pas ma confirmation parce que voilà, je ne veux pas poursuivre mon chemin de foi » et puis à l'inverse, après, quand vous êtes revenue?
Moi, j'ai eu des parents qui sont très catholiques et qui ont été très investis dans mon éducation religieuse quand j'étais enfant. Néanmoins, je pense qu'ils ont compris que j'avais aussi besoin de cette période d'éloignement pour y revenir après, parce que c'était une sorte aussi de redécouverte quand j'y suis revenue, totalement consciente et libre, là où quand j'étais petite, c'était quelque chose de facile et d'évident pour moi. Et je pense que ça, ils l'ont très bien compris, donc ils m'ont laissé respirer. Ils m'ont quand même accompagnée dans les moments forts de la vie religieuse, donc les grandes fêtes telles que Pâques ou Noël, mais au quotidien, ils me laissaient en fait mes questionnements et ils étaient là pour y répondre si besoin, mais cet espace-là, ils ont compris que j'en avais besoin aussi. Mmh.
Et donc, vous êtes revenue pour préparer votre confirmation dans une démarche complètement libre, hein, vous dites, une adhésion où vous aviez, on ne vous a pas dit, il faut faire ta confirmation. Et donc là, la réaction, j'imagine, de vos parents a été plutôt heureuse.
Ah oui, ils ont été ravis. Alors, ils voyaient depuis 1 an et demi, 2 ans que je revenais à Dieu et que je repratiquais, donc ils étaient très contents. Mais c'est vrai que quand je leur ai dit que je voulais me faire confirmer, ça a été pour eux, je pense, une sorte de soulagement de se dire, bon, bah, elle y est revenue pour de bon. Et puis aussi, d'un autre côté, ben, pendant toute cette préparation à la confirmation, ça leur a permis aussi, eux, de se replonger un petit peu dans la vie chrétienne, notamment au niveau de la confession, par exemple. Et donc, en fait, ça a été un échange énorme parce que jusqu'ici, c'est eux qui m'avaient enseigné, qui m'avaient donné une éducation religieuse. Et puis là, bah, ça allait dans les deux sens, en fait.
Mmh. Chiara, vous qui êtes donc au téléphone depuis Paris, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de la confirmation ?
Alors moi, en fait, j'ai grandi et j'ai fait presque toute ma scolarité à Toulouse, dans un établissement catholique du centre-ville, donc qui proposait le cheminement classique de première communion, profession de foi, que j'ai suivi. Et en fait, à 15-16 ans, alors que mes camarades, eux, demandaient la confirmation, ça n'avait pas un véritable sens à cette époque de ma vie et ça faisait pas écho à grand-chose pour moi. Et je me suis dit, plutôt que d'essayer de demander un sacrement qui ne représente pas tant que ça, je vais essayer encore de me poser quelques questions jusqu'à ce que ça ait une vraie signification à mes yeux. Et en fait, à mes 16 ans, avec le lycée, j'ai participé au pèlerinage du rosaire à Lourdes. Et c'est à ce moment-là, en fait, lors d'une messe dans le sanctuaire, que j'ai eu une sorte de déclic. En fait, j'ai ressenti l'effusion de foi et l'émanation de toute l'assemblée en train de prier. Et ça m'a énormément touchée et ça a provoqué quelque chose en moi qui m'a fait me dire que, en fait, j'étais bien et j'ai été entourée de gens comme moi et j'avais envie de faire comme eux. Et en fait, après le rosaire, j'ai commencé à aller à la messe étudiante, d'abord avec des amis, puis seule. Et en fait, c'est rapidement devenu une habitude. Et depuis cette époque, en fait, je vais à la messe tous les dimanches. Donc, ça m'a vraiment rapprochée aussi d'une habitude d'aller vers Dieu. Et en fait, au fil des messes, j'ai une compréhension de plus en plus profonde de ma foi, de Dieu, de la place du catholicisme dans ma vie. Et j'ai énormément progressé. Et j'ai de plus en plus ressenti aussi le besoin de faire un véritable pas vers Dieu, un pas concret qui ancre un peu plus ma foi dans ce cheminement. Et j'en suis donc arrivée à demander le sacrement de confirmation 5 ans après ce déclic lors de la messe du rosaire. Et à un moment où cela faisait parfaitement sens pour moi et où je comprenais toute la signification de ce sacrement que j'allais recevoir.
Oui, c'était un long chemin et vous arriviez finalement à une conclusion d'une longue interrogation et d'un long cheminement. Cette confirmation que vous avez donc reçue à la Pentecôte a été célébrée au terme d'un long parcours de formation. Thibault, vous êtes un des catéchistes pour la paroisse étudiante de Toulouse, puisqu'il y avait quand même 80 confirmants hein, cette année. Vous receviez donc avec votre colocataire Augustin un groupe de 6 catéchumènes, un mercredi sur 2. Quel était l'objet de ces rencontres ?
Alors en fait, le principe, c'est de donner des études bibliques. Donc une semaine sur 2, on les recevait chez nous et on leur donnait une étude biblique qu'on avait préparée un peu en amont. Et donc par ces études bibliques, on a pu aborder beaucoup de thèmes. On avait beaucoup de thèmes, enfin une grande base de données au début de l'année et on a pu du coup piocher dedans petit à petit au cours de l'année pour leur donner ces enseignements-là. Et donc c'était assez riche parce qu'on a pu aborder beaucoup de choses, par exemple des choses très simples mais fondamentales dans la vie de foi, comme la prière quotidienne, la lecture de la Bible, comment prier l'Esprit Saint, la confession, et aussi des, par exemple, la théologie du corps avec Saint Jean-Paul II, aussi des thèmes, on abordait 1 Corinthiens, donc beaucoup de choses autour de l'unité dans l'Église, et c'était aussi très enrichissant pour nous de préparer ça, de leur transmettre ça, enfin... C'était pour moi un grand enrichissement dans ma vie de foi.
Oui, parce qu'en fait, vous aviez donc des textes qui vous étaient proposés, qui étaient de l'Ancien comme du Nouveau Testament.
C'est ça.
Et puis, vous aviez la liberté de piocher. C'est vous qui choisissiez avec votre colocataire les textes.
Oui, c'est ça. On a choisi les textes. Alors après, je sais qu'il y a des binômes de catéchistes qui ont fait autrement, qui ont un peu... Enfin, qui ont proposé à leur catéchumène les thèmes à aborder. Nous, ça s'est fait un peu plus tard dans l'année, ça. Mais donc ensuite, sur la base du texte, on se préparait avec un petit guide. Et ensuite, quand on recevait les catéchumènes, on avait un fil de questions qu'on déroulait avec eux et qui permettait de vraiment rentrer en profondeur dans le texte et de bien leur faire comprendre ce qui était dit et enseigné derrière. Et ça portait aussi, souvent les questions portaient beaucoup à la discussion. Et donc ça, c'était très intéressant aussi de pouvoir, entre eux, pouvoir discuter de leur expérience, de leur ressenti, et c'est aussi le bénéfice d'avoir un petit groupe seulement en catéchumène.
Oui, ça permet l'échange.
Voilà ça, et puis aussi de créer l'accueil, de recevoir chez soi pour une ambiance de confiance, quoi.
Vous parlez de catéchumène parce que, en fait, il faut le préciser, vous aviez non seulement des personnes qui se préparaient au baptême, mais aussi des personnes qui se préparaient à la confirmation. Les questions, qu'est-ce qui préparait ces questions? Parce qu'elles avaient l'air très bien faites, visiblement.
C'est une base de données que l'équipe du catéchuménat avait récupérée l'an dernier. Mm-hmm. Alors, ça vient des missionnaires Focus aux États-Unis. Et donc ensuite, nous, on se l'appropriait avec Augustin, on se le préparait en amont. Nous, on avait décidé de faire une séance sur deux, l'un qui menait et l'autre qui était un peu en accompagnateur à côté. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de rendre ça assez interactif et didactique et pas seulement comme un interrogatoire.
Alors on entend que effectivement ça vous a enrichi parce que c'était une occasion pour vous de vous plonger dans la parole de Dieu et de voir à quel point elle est vivante. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, à prendre une telle responsabilité? Parce que c'est pas rien quand même quand on a 26 ans d'aider des jeunes qui sont peut-être un tout petit peu plus jeunes à pas se préparer au baptême ou à la confirmation.
Je dirais que le moteur essentiel, c'était un peu la fraternité, justement. Parce que, c'est mon colloque, mais auparavant, c'était aussi engagé en colloque dans le parcours Alpha Campus. Et ça a été une très belle expérience de vivre l'accueil, de faire venir des gens, une dizaine de personnes, pour des dîners une fois par semaine, et vraiment de mettre l'emphase sur l'accueil. Et donc, en fait, quand on m'avait proposé d'être catéchiste, pour moi, c'était un peu la continuité de cet engagement-là. Parce que là, du coup, au lieu de recevoir des personnes qui simplement se posaient la question de Dieu, là, on recevait vraiment des personnes qui avaient soif.
Et donc,
étaient aussi en chemin. Et souvent, parfois, c'est des personnes qui étaient aussi passées par le parcours Alpha avant. Et donc, ça, c'était beau. Et donc là, il y avait vraiment une grande soif. Ça m'a vraiment impressionné au début, ça. La soif qu'ils avaient. Ça nous a motivé à bien préparer les choses.
Et ça interroge aussi, parce que vous dites que vous avez eu la foi depuis tout petit, vous avez grandi dans une famille catholique et vous avez eu un parcours, on va dire, assez linéaire. Oui. Le fait qu'il y ait des jeunes qui s'interrogent aujourd'hui et qui ont cette soif, est-ce que vous n'êtes pas dit, moi, il faudrait peut-être que j'ai un peu plus soif, non?
En tout cas, ça m'a bien fait travailler sur les Écritures.
Oui.
Et par exemple, quand on a abordé les textes de 1 Corinthiens, je me suis un peu plongé dans le contexte de Corinthe. En fait, pourquoi est-ce que Paul y va à Corinthe? Et en fait, c'est impressionnant, mais j'ai découvert que à ce moment-là, à cette époque-là, Corinthe, donc c'est une ville qui est en Grèce, et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment c'est un peu le Las Vegas de la Méditerranée, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est de la débauche partout, il y a un énorme héritage philosophique, donc il y a une grande arrogance de ce point de vue-là. Et en fait, du coup, on se rend compte que Paul, la situation dans laquelle il arrive à Corinthe, où il est tout seul quasiment, il est avec Aquilas et Priscilla pour fonder son église, mais il est quasiment seul. Et en fait, il nous rejoint aujourd'hui, quoi. Quand nous, on a l'impression d'être tout seul dans le monde, qu'on soit à l'école, en entreprise, on a l'impression d'être un peu les seuls chrétiens. Mais on se rend compte que c'était, bah oui, c'était vécu déjà avant. Et même eux, c'était encore pire parce que bon, on a quand même l'héritage culturel, quoi. Mais et donc c'était assez impressionnant de découvrir ça aussi.
Oui, d'avoir des similitudes entre ces deux époques. Chiara, vous avez suivi une partie de votre formation à Toulouse et puis une autre à Paris. Est-ce que vous avez eu ces temps d'études bibliques aussi?
Oui, tout à fait. C'était organisé à peu près de la même manière que ce qu'a décrit Thibault. On avait des réunions une fois par mois entre confirmants, avec un topo du prêtre, un temps spi. Et moi, en plus, j'avais une accompagnatrice en fait personnelle à Paris qui travaillait les textes avec moi et avec qui je pouvais échanger pour qu'elle m'offre un peu son éclairage, son regard. Et en fait, ça nous permettait de pousser la réflexion un peu plus loin. Et en fait, elle était tout juste confirmée l'année précédente, donc elle avait déjà fait l'année de formation. Et en fait, je pense que ça m'a énormément apporté et enrichi de pouvoir partager ça aussi avec elle. Et ça a poussé ma réflexion encore plus loin.
Tiphaine, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de vous plonger dans la parole de Dieu? Parce que c'était quelque chose que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire.
Moi, j'avais l'habitude d'avoir une pratique assez individuelle, en fait. J'allais à la messe, mais à part ça, je parlais pas trop autour de moi de ma foi. Et c'est vrai que le fait d'en parler autour de moi, avec des prêtres, mais aussi avec des catéchistes, donc qui ont à peu près la même vie que moi, mais qui ont plus de connaissances que moi là-dessus, ça m'a permis d'apprendre des choses et de me réconcilier sur certains points. Notamment, je me rappelle particulièrement d'un topo où en fait, il parlait de l'Église. Qu'est-ce que c'était que l'Église? Et c'est vrai que moi, je pensais que l'Église, c'était les prêtres, les évêques, le clerc, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, j'ai appris que c'était vraiment l'ensemble des croyants. Que ce soit les croyants qui sont aujourd'hui au ciel ou ceux qui sont sur terre, et que ça a regroupé aussi des personnes comme moi ou comme Thibaut. Et en fait, du coup, par exemple, sur ce sujet-là, en fait, ça m'a permis de me réconcilier et de vouloir en discuter autour de moi, que ce soit avec des personnes qui croient ou non, et d'échanger, quoi.
Et vous êtes dit, je fais partie de ce corps, en fait, de
C'est
cette
ça,
église.
ouais, tout à fait. J'avais déjà l'impression d'en faire partie, mais là, ça devenait vraiment concret, pour
Oui,
le
c'est
coup.
ça. Oui. Chiara, vous m'avez dit que vous aviez préparé votre confirmation en suivant des topos de la paroisse étudiante via WhatsApp.
Oui, en fait, il y avait le groupe WhatsApp de tous les étudiants confirmants de la paroisse étudiante qui fournissait et les textes et des petites notes synthétiques une fois qu'ils avaient suivi les topos. Et en fait, moi, ça me permettait d'avoir aussi un regard sur ce qui avait été travaillé à Toulouse et de pouvoir le croiser avec ce que moi j'apprenais à Paris. Et en fait, j'ai une double formation et pour le coup, je me suis sentie un peu privilégiée là-dessus. Et je pense qu'à terme, ça m'a d'autant mieux préparée pour la confirmation.
Oui, et vous auriez des exemples à nous donner de ce que vous avez reçu à travers ces topos?
Bah déjà, tout simplement, ça m'a permis de refaire un tour des grandes thématiques de la Bible, ce qui était pas mal parce que j'avais beau avoir déjà un peu lu la Bible jeune, on n'arrête pas d'apprendre des choses et de réinterpréter aussi ce qu'on lit. Ça, j'ai trouvé ça super. Et à côté de ça, on nous a rappelé le sens aussi de la plupart des autres sacrements comme l'Eucharistie, la réconciliation, et se rappeler pourquoi on suivait ce cheminement dans cet ordre-là. Et pour avoir en fait pleinement conscience de à quoi nous engager la confirmation derrière.
Et de même que Tiphaine disait que ça a changé son regard sur l'Église, est-ce que vous, il y a des choses y a un regard qui a été transformé pour vous grâce à cette formation?
Bah pour le coup, il y a une partie de similitude avec ce qu'a dit Tiphaine, puisque moi aussi, en fait, je me suis rendu compte que l'Église, c'était la communauté des fidèles, et qu'en fait, enfin, on m'a beaucoup répété pendant ma formation, un chrétien seul est un chrétien en danger. Et en fait, c'est une phrase qui résonne énormément aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'être chrétien, c'est faire partie de cette communauté, et qu'on peut vivre sa foi dans une communauté. Et en fait, la préparation à la confirmation m'a appris à aller au-delà de la communauté, tout simplement pendant la messe, mais aussi pendant des temps d'échange, des temps de formation, des topos où on se retrouve tous entre croyants. Et c'est là qu'on apprend le plus, j'ai trouvé.
Et par rapport à votre relation à Dieu, comment a-t-elle évolué pendant tout le long de cette formation à la confirmation?
Dans ma relation à Dieu, c'est vrai que j'ai eu aussi des hauts et des bas. Il y a des moments où je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi cela m'arrive alors que j'y crois, alors que je suis censée être aimée. Et en fait, on comprend qu'il y a une autre dimension à cet amour. Enfin, j'ai compris aussi que l'Esprit Saint, c'est pas simplement, il est là pour nous donner. C'est une relation mutuelle. On est aussi là pour se donner. Et Dieu attend qu'on se donne aussi en retour. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis aperçue qu'il fallait aussi moi que je ça, je m'engageais de mon côté. Mais en fait, ça peut être dans des multiples petites choses de la vie au quotidien. Et ça m'a appris que Dieu, c'est une relation et c'est pas simplement quelqu'un qui est là pour nous donner, nous guider, et qu'il attend de nous aussi qu'on ait notre libre arbitre et qu'on puisse aller le chercher. Et ça l'a probablement transformé en ça aussi, ce qui m'a poussé à vouloir m'engager un peu plus derrière pour ma foi.
Mmh. Thibaut, vous entendez là ce que dit Chiara à propos de sa relation à Dieu. Pour vous qui avez accompagné ces jeunes pendant quasiment un an, on va dire une petite année scolaire, qu'est-ce que ça vous suggère?
Ça a été aussi dans le sens porteur l'accompagnement de ces jeunes dans ma vie de foi, surtout dans la vie de prière, parce que donc c'est vrai qu'on les avait une semaine sur deux donc chez nous en études bibliques, mais la semaine suivante les catéchistes, on avait un enseignement pour nous et on se retrouvait tous ensemble entre catéchistes, on avait un enseignement pour nous et tous les catéchumènes aussi se retrouvaient entre eux, il y avait un enseignement général et donc nous au travers des enseignements catéchistes on avait aussi une formation. Et je me rappelle une intervenante qui était venue nous parler de donc, l'accompagnement à la vie spirituelle, en gros. Enfin, l'accompagnement de la croissance dans la vie spirituelle. Et qui nous avait dit, n'hésitez pas dans vos prières à confier vos catéchumènes, à les nommer et à prier pour eux, quoi. Et ça, du coup, ça m'a aussi beaucoup fortifié pour la prière quotidienne. Et ça, ça faisait plaisir aussi de les confier, quoi, les accompagner.
Oui, bien sûr. Je vous donnerai la parole après la pause, Tiffaine de la Rupelle, puisque vous allez nous dire aussi tout ce que cette formation vous a apporté. Vous nous avez parlé de votre regard sur l'Église, mais il y a aussi sur votre relation avec le Christ. Je vous propose que nous marquions une pause. Nous écoutons l'Esprit Saint qui nous est donné, interprété par la communauté de l'Emmanuel.
Oh, no.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Confirmation, comment s'y préparer et comment la vivre après, c'est le sujet de Vivante Église. Aujourd'hui, nous sommes avec Tiphaine de la Rupelle et Chiara Gatti, toutes deux confirmées à la Pentecôte 2025, également au plateau Thibaut Buguet-Chargère, catéchiste à la paroisse étudiante de Toulouse. Vous nous disiez, Chiara, juste avant la pause musicale, combien la préparation à ce sacrement vous avait apporté, tant au niveau spirituel qu'au point de vue humain. Tiphaine, on a promis qu'on se retrouverait, juste après la pause. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette progression, de cette préparation qui vous a apporté au niveau de votre foi?
En fait, je rejoins totalement Chiara sur ce qu'elle disait tout à l'heure, en ce sens que la relation qu'on a avec Dieu, c'est vraiment un échange. Et moi, je me suis préparée à la confirmation, j'ai vraiment regardé en arrière et j'ai regardé mon baptême, en fait. Et je me suis dit que le baptême, j'avais un petit peu pris comme un cadeau que Dieu m'avait offert et dont j'avais un petit peu profité toute ma vie et qui m'avait permis d'enrichir ma foi, mais que ce cadeau-là, il fallait maintenant que je l'accepte et que je le fasse fructifier, un peu comme une main qu'il me tend, que je dois prendre, en fait. Et la confirmation, je l'ai vraiment pris comme ça, comme un choix d'aimer Dieu et de semer son amour aussi autour de moi et de le faire fructifier là où, en fait, jusqu'ici, c'était une volonté qui n'était peut-être pas aussi consciente et affirmée.
Et semer l'amour de Dieu autour de soi, ça implique un engagement. Et vous nous disiez, Thibaut, que finalement, quand les jeunes se préparent au baptême ou à la confirmation, on leur propose déjà de s'engager pour l'Église.
L'idée, c'est de les impliquer avant même leur sacrement.
L'idée, c'est de les impliquer avant même leur sacrement pour que, en fait, après, une fois qu'ils ont reçu leur sacrement, ça roule, quoi. Ils soient vraiment... En fait, c'est dans l'idée de fraternité, quoi. C'est qu'ils soient vraiment inclus dans l'Église et qu'ils se donnent aussi que... C'est vrai que pendant le catéchuménat, on reçoit beaucoup. Et là, c'est aussi leur donner l'opportunité de donner. Et souvent, ils ont aussi beaucoup soif de ça, de pas simplement être là, de recevoir, et de pouvoir aussi prendre des responsabilités. Et on avait l'exemple dans notre groupe de fraternité, il y avait pas mal de catéchumènes qui s'étaient beaucoup donnés, notamment aussi il y avait un événement de la part étudiante, un très bel événement qui s'appelle Exode, qui était aussi un très bon moyen pour donner l'opportunité à des jeunes de s'engager dans plein de petits services. Et donc on avait plein de catéchumènes qui étaient aussi engagés là-dedans, et donc c'était beau à voir, quoi. Et donc ça permet de les responsabiliser, en gros, et de prendre en main leur foi un peu, quoi.
Oui, et puis ça permet déjà d'installer des habitudes, finalement, où on n'est pas juste consommateur,
c'est
et
ça.
Que sa foi, c'est pas juste une petite relation rien que pour soi,
oui.
Mais c'est qu'il y a vraiment un déploiement en Église. Chiara, vous, sur la question du service et de l'engagement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Alors moi, j'avais déjà quelques engagements en lien avec la foi, notamment le scoutisme que j'ai fait depuis cette année. Mais en fait, la préparation à la confirmation m'a aussi poussée à me dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus, comment je pourrais moi aussi à mon tour transmettre l'Esprit Saint, transmettre ma foi et essayer de partager ça. Et en fait, ça m'a motivée à prendre d'autant plus d'engagement, peut-être des choses un peu plus caritatives pour aider les pauvres, comme par exemple l'Ordre de Malte, mais aussi des parcours de formation pour moi continuer à approfondir ma foi et ma compréhension de la Bible, comme par exemple le parcours Even que j'envisage de faire dès septembre, pour continuer à me former et savoir mieux aussi derrière interpréter les textes et pouvoir ensuite donner mon éclairage à d'autres personnes et essayer pourquoi pas de former des catéchumènes à mon tour.
Oui, oui, c'est important, et puis de répondre aux questions de vos contemporains, parce que y en a beaucoup autour de vous qui certainement ne comprennent pas votre démarche et puis qui se posent des questions, questions du sens de la vie, de la vie après la mort, etc. Donc il faut pouvoir leur répondre.
Oui, tout à fait.
Tiphaine, sur la question de l'engagement, qu'est-ce que cette confirmation finalement vient déclencher en vous ou confirmer en vous ?
En fait, j'ai toujours quand même été assez engagée, même quand j'ai eu cette rupture avec l'Église, dans des associations pour la charité, etc., notamment l'Ordre de Malte, comme Chiara. Mais ce qui a changé, c'est l'intention qu'il y avait derrière. Parce qu'en fait, quand on accepte l'amour inconditionnel de Dieu, on n'est plus en recherche d'amour ailleurs et on n'a pas l'impression qu'il se mérite. Donc on ne fait plus les choses pour être aimé, on les fait pour par amour en fait, et pour faire le bien autour de soi et pour le répandre, parce qu'en plus c'est un cercle vertueux, quand on répand de l'amour ça va encourager les autres aussi à le répandre, etc. Donc en fait moi c'était plus dans l'intention cachée de mes actes, c'était plus sincère et du coup c'était plus pur et plus utile aussi je pense autour de moi, voilà.
J'aimerais qu'on parle de cette dimension de la fraternité, puisque quand on vous écoute Thibaut, on voit bien que le fait de se retrouver en petit groupe un mercredi sur deux, et puis qu'après les catéchistes d'un côté et les catéchumènes de l'autre se retrouvent l'autre mercredi, tout ça c'est important, et à quel point c'est important quand on est étudiant ou jeune professionnel?
Je trouve que c'est important pour le fait aussi de retrouver. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir dans les catéchumènes qu'on avait chez nous, de voir un peu des profils d'étudiants que moi je fréquentais en école 3-4 ans avant, et me dire de les voir là, de voir ces personnes que j'aurais pas pu soupçonner de venir, enfin, demander, d'avoir cette soif. Et aussi, ce qui était beau d'avoir cette fraternité, c'était aussi, donc, on les avait chez nous un mercredi, et le mercredi suivant, le fait, même si on avait des enseignements séparés, il y avait un temps de commun, un temps de prière commun, et donc ça fait aussi du lien, on se croise, on se fait tiens machin, et pareil ça refait du lien aussi à la messe si on se recroise, et donc ça participe beaucoup à la fraternité quoi.
Et puis avec des temps aussi conviviaux qui sont propres à la vie étudiante, barbecue.
Oui, par exemple, nous on n'a pas eu trop l'occasion de le faire ça, mais il y a des groupes qui ont fait, c'était un projet, mais de faire, il y a des groupes qui sont partis faire des randonnées. Il y en a qui allaient se prendre des verres après, enfin ça c'était, on était aussi très libres là-dessus, et nous je sais qu'on a fait aussi des séances en plus parfois à la demande des catéchumènes, donc c'était génial quoi.
Chiara, est-ce que vous avez vécu cette fraternité, et est-ce que c'est ça qui vous donne aussi envie de continuer à vivre en église?
Oui, je l'ai pas mal vécu cette année avec mon groupe de confirmants, même à Paris. Et en fait, de me savoir un peu accompagnée à Toulouse aussi, ça a ajouté, je pense, à ce sentiment d'être entourée. Et avec mon groupe de confirmants, nous, on a fait au mois d'avril une retraite en silence dans un prieuré. Et c'est vraiment là que, en fait, je me suis rendu compte que même dans le silence pendant tout un week-end, on pouvait se sentir entourée, avoir cet aspect fraternel en fait de notre foi, et être en communauté quand même, et qu'il y avait plein de façons de communiquer, et en fait de communiquer sur les mêmes choses, notamment sur notre foi, ça passe par un milliard d'autres langages que la parole.
Oui. Tiffaine, vous n'avez pas eu cette chance de faire partie d'une fraternité, puisque vous êtes arrivée un petit peu en cours de route pendant l'année. Néanmoins, est-ce qu'il y a eu des temps forts qui vous ont permis de ne pas être un chrétien tout seul, comme vous le disiez?
Ah oui, évidemment. Enfin, à la paroisse étudiante de Toulouse, ils ont ce qu'on appelle le pré-catéchuménat. Donc c'est le mercredi sur deux où les autres sont en fraternité. Et en fait, on se retrouve pour des temps conviviaux. Ça peut être des topos avec des personnes de la vie religieuse, ou ça peut être juste des moments où on est dans un échange les uns avec les autres. Et c'est super sympa parce que du coup, on parle avec des personnes qui sont dans ce chemin avec nous, et puis avec d'autres personnes qui sont capables de répondre aussi à nos questionnements et à nos doutes, et on a été super bien accompagnés. Il y a vraiment cette volonté-là de la paroisse étudiante de Toulouse de ne pas nous laisser tout seuls, et même s'ils sont remplis et qu'ils sont pleins à craquer de personnes qui ont envie de recevoir des sacrements, en fait... Il nous accueille à bras ouverts, quoi. Donc, j'avais toujours quelqu'un pour répondre à mes questions. Les topos étaient quand même bien ficelés, même si c'était pas en fraternité. Donc, c'était génial, quoi.
Oui. Donc, quand même une vie. Et puis, vous me disiez que pendant le carême, vous aviez vécu aussi un temps particulièrement fort.
Oui, en fait, moi, c'était la première fois que je le vivais de A à Z. J'avais jamais fait tous ces temps-là. Et en fait, d'une part, parce qu'on nous l'expliquait bien, ce temps de carême, avec les bons mots, et d'autre part, parce que on sentait que même les personnes pour qui c'était la première fois, c'était quelque chose de très fort pour eux. Et on a eu des temps de prière, on a eu des célébrations qui étaient, en parlant et sans en parler, pour tout le monde, très, très fortes, en fait. Et ça m'a permis aussi de me réconcilier avec le carême, parce que c'est quelque chose à l'origine dont j'ai pas non plus un souvenir très joyeux. Pour moi, c'était quelque chose d'assez grave et solennel. Et en fait, il y a eu des moments de joie qui étaient quand même assez marquants pour moi et pour les autres catéchumènes, je pense. Ouais.
Un regard, un nouveau regard en tout cas, hein, oui, grâce à cette confirmation, c'est beau. Chiara, je me retourne vers vous, là, puisque maintenant que vous êtes confirmée, vous nous avez dit que vous vouliez continuer à vous engager et à vous former. Vous avez, au cours de toute votre préparation, appris à mieux connaître Dieu, vous avez découvert un autre visage de l'Église. Qu'est-ce que vous souhaitez être maintenant comme chrétienne ?
Alors, moi, j'ai beaucoup médité sur le fait que la confirmation, ça se fait le jour de la Pentecôte et que c'est le jour où l'Esprit-Saint descend sur les apôtres. Et en fait, c'est le jour où ils reçoivent cette flamme-là. Ils doivent apprendre à aller aussi la répandre, la diffuser pour agrandir l'Église. Et je l'ai vraiment pris comme ça, en fait, la confirmation, comme le choix non plus seulement de recevoir l'amour de Dieu, mais aussi de le diffuser autour de moi et de diffuser aussi sa connaissance. Et auprès de catéchumènes qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et qui ne demandent que ça. Et ce que j'ai fait aussi, moi, dans ma lettre, c'était mon accompagnatrice de confirmation qui m'avait conseillé de le faire. C'était sur les 7 dons de l'Esprit-Saint qu'on reçoit le jour de la confirmation, essayer d'en demander un qui pourrait être un manque pour nous. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à un don qui pourrait m'apporter énormément. Et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait derrière m'aider à savoir cheminer dans la bonne direction pour le reste de ma vie, de pouvoir ensuite transmettre aussi ces dons à travers ce que je pouvais faire pour l'Église et donc pouvoir cheminer vers Dieu avec confiance et espérance sans cesse.
Mmh. Et c'est une bonne idée de demander un don particulier. Par exemple, Thibaut, vous qui êtes confirmé depuis plus longtemps, est-ce qu'il y a un don particulier du Saint-Esprit que vous pourriez demander, par exemple, pour l'année prochaine ?
Alors, pour l'an prochain, il faut gérer la force. Mais non, il y avait aussi quelque chose que je demandais beaucoup dans la prière, c'était l'enseignement. Parce que dans la Bible on voit que la grâce, enfin, c'est une grâce l'enseignement, et que au début elle est donnée à la tribu de Lévi, et donc de beaucoup la demander. Et en tout cas moi l'engagement de cette année, ça m'a donné envie de continuer, parce qu'en fait c'est très beau, et comme disaient Tiffaine et Chiara, on vit vraiment notre vocation de chrétien et de baptisé. Quand on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi, et donc en fait c'est pas seulement. Enfin, on est aussi amené, nous, enfin, à être moteur dans l'Église, quoi. Mmh. Et donc, même. Donc moi, j'ai parcours un peu classique, donc j'ai fait du scoutisme, etc. J'ai pu aussi être formé avec l'école de théologie à Toulouse. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, aussi donner, c'est génial. Et je conseille à tout le monde. En fait, on peut même, avec très peu d'expérience, on peut aussi. En fait, c'est très facile d'enseigner. Surtout avec nous, les supports qu'on avait, on était très bien accompagnés, et donc en fait il suffit de pas grand chose pour y aller, et en fait aussi un peu de prière, quoi.
Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on peut demander à l'Esprit-Saint, c'est ce petit coup de pouce pour y aller, justement, et pour s'engager. Tiffaine, quelle chrétienne vous voulez être là depuis que vous avez été confirmée?
D'une part, j'ai envie de m'engager comme je le fais, mais de plus en plus, et que cet engagement soit croissant. Donc pourquoi pas devenir catéchiste ou m'engager encore plus dans l'ordre de Malte. Et au-delà de ça, j'ai envie d'être dans un renouveau constant, en fait, parce que c'est marrant, je parlais il y a 2-3 semaines avec une des catéchistes, Florence, qui est pour le coup une adulte, une vraie, et qui me disait, mais on n'a jamais fini d'apprendre, en fait. Et tous les jours, je vais à la messe et tous les jours, j'entends une lecture que j'ai déjà entendue, mais qui m'apprend quelque chose de nouveau à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau, le fait d'en apprendre tous les jours sur soi-même, sur les autres et sur le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer toute sa vie pour être un chrétien épanoui.
Oui. Et est-ce que le fait d'être dans une école de commerce qui peut être aussi un milieu assez matérialiste, ça ne vous fait pas peur ?
Non, je dirais plutôt que c'est le fait de vivre ma foi qui me conforte et qui me rassure et qui ne m'éloigne pas de ce que je suis réellement au fond. Et en fait, l'école de commerce au début, c'est vrai que c'est un petit peu, comme on l'imagine, c'est très claquant, clinquant. Et en fait, autour de moi, si on fait un petit peu attention, dans cette école, il y a des gens qui sont tout à fait comme moi et qui se posent les mêmes questions, même si ça ne se voit pas. Et c'est là où je rejoins mon idée de tout à l'heure d'aller chercher l'amour de Dieu un petit peu partout, dans les petits détails. Et quand on propage un peu cette parole autour de soi, qu'on en parle, même à des personnes qui ne croient pas comme nous ou qui n'en parlent pas, on se rend compte que même en école de commerce à TBS, peut y avoir des personnes qui se posent les mêmes questions que moi et qui sont dans la même optique en fait.
Voilà, il faut juste avoir l'esprit sain et c'est ce que vous avez reçu pour pouvoir être témoin dans, et missionnaire dans ce monde. Merci Tiffaine de la Rupelle, merci Chiara Gatti et merci Thibaut Buguet-Chargère. Vous avez témoigné aujourd'hui de la façon dont la confirmation a transformé votre vie. L'Église a besoin de vous. Allez et de toutes les nations, faites des disciples. Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.